quoi, Sophie-Claude?
Hey, bonjour, Alexis.
En deuxième partie, on reçoit une auteure qui vient nous présenter son livre « Envole-toi, Mégoun ». Donc, moi, roi, Ushatesgun Bacon.
Mm-hmm.
Donc, un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention, qui parle d'une jeune qui... Une jeune queer, là, dans un milieu
urbain.
Donc, il y a...
Ben moi, ça me touchait beaucoup. Là. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec ma vie personnelle. Là. On entend moins parler, des Autochtones en milieu urbain, surtout de la jeunesse, puis ben aussi avec toute la panoplie d'orientation sexuelle puis d'identité aussi. Je trouve ça très, très intéressant. J'ai hâte de la rencontrer.
Oui, elle va être ici avec nous autres en studio en plus. Mais pour commencer l'émission, on parle à... Jones Evans, Kokochi, vice-chef et conseiller au conseil des Atikameks de Wemontachi. En plus de ça, il est en train de terminer sa maîtrise. On va en parler un petit peu en deuxième partie d'entrevue. Et il est père aussi. Donc, je pense que c'est un beau modèle en plus de qu'est-ce qu'il va venir discuter sur les enjeux en matière forestière en territoire, dans le Nitaskinan, dans le territoire Atikamek.
Mm-hmm. Quoi, John Evans? Écoute, là, on a reçu un communiqué cette semaine qu'en début décembre, il y a un nouveau blocus Atikamek érigé sur la route 25. Donc, c'est le même endroit qui avait eu lieu le printemps dernier sur la même route. Donc, pour l'instant, la Sûreté du Québec ont des gens sur place, mais il n'y a pas un interdit de circulation pour notre auditoire. Pourquoi un blocus sur la route 25?
Excellente question. Auquel nous aussi, on est allé, on a essayé d'aller chercher l'objectif derrière ce petit mouvement, en fait, et les intérêts derrière les quelques personnes, quelques individus qui maintiennent le blocus, mais il n'y a pas beaucoup de coopération. Donc, je ne sais pas si vous êtes. Pour l'auditoire, en quelque sorte, là, ils critiquent beaucoup le système de la loi sur les Indiens, en fait. Ils critiquent beaucoup aussi les différents conseils tribaux aussi, notamment le CNA. Donc, il n'y a pas...
Le CNA, pour nos auditoires, John Evans, c'est le Conseil de la Nation Atikamek.
Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est le conseil tribal qui rassemble les trois communautés Atikamek, Wemotachi, Manawan et Obidjouan. Qui est le conseil tribal est mandaté pour différents dossiers, il y a différents services dans la communauté, dans les communautés en fait. Et, bref, fait que
qu'est-ce qui critique au niveau de la loi sur les Indiens spécifiquement, parce que c'est assez large, il doit avoir quelque chose de spécifique qui critique plus précisément.
Oui, oui. Dans le fond, ce qui critique, c'est que les conseils de bande, la loi sur les Indiens. Ne donne pas de définition large de comment procéder aux différents chemins, en fait. Comment est-ce que les peuples autochtones peuvent s'organiser pour avoir des ententes sur le territoire? Donc, c'est sûr que c'est très limité comme définition dans la loi sur les Indiens. Et c'est ce qui met en valeur, finalement, là, les différents dissidents, là, notamment là, le petit groupe là, qui maintiennent le blocus. Donc,
oui, parce qu'on on le rappelle, le territoire qui est question, c'est quand même un territoire ancestral qui est non cédé. Là. Il n'y a pas de traité qui a été signé, puis c'est un territoire non cédé. Fait que vous avez des revendications pour la gestion de ce territoire-là?
C'est exactement ça. Dans le fond, nous, ce qu'on... Je vais vous expliquer un peu la ligne du temps là, dans la foresterie. C'est qu'à Wemontachi, les gardiens du territoire, c'est ceux qui sont en quelque sorte mandatés par leur famille pour représenter là, les intérêts de la famille, c'est comme des porte-parole des familles. Là. C'est comme des chefs de territoire, des chefs de famille en quelque sorte. Et ces personnes-là, ils avaient remarqué qu'après la COVID, il y avait beaucoup de coupes forestières. Et il y avait des chantiers qui n'étaient pas harmonisés. Donc, là, ils sont venus, ils sont rencontrés le service le bureau de gestion de territoire du conseil de Wemontachi, Et ils ont exprimé leur volonté de protéger le territoire, mais pas via une action radicale comme un blocus. Donc, ce qui avait été mis sur la table, c'est peut-être de créer une table, un comité de négociation avec MRNF. Mais comment parvenir à ça? Parce que, rappelons-nous, là, en recul 2021, Manawam aussi, il y avait un blocus dans aux environs de leur communauté. Et là, l'opportunité, en fait, Wemotashi, ils ont vu une fenêtre d'opportunité. Ils se sont dit, on va mettre en demeure le gouvernement provincial, et c'est en février 2022 qu'il y a eu le processus de mise en demeure. Puis quelques semaines après, quelques mois en fait, au mois de juillet 2022, c'est là qu'il y a eu le comité de négociation qui a été créé. Puis après ça, ça a duré près d'un un peu plus qu'un an de négociation en fait. Puis entre-temps, au printemps 2023, c'est là où il y a eu le blocus également, mais je veux juste rappeler, le Conseil n'a jamais donné d'appui officiel au blocus. Donc, en avril 2023, c'est là où on est rentré. Il y a eu quand même cinq nouveaux élus sur 7. Donc, les orientations changent, la passation des dossiers, etc. Mmh. Puis au final, ça fait que ça je sais pas la date exacte, là, mais au mois de novembre, on a eu la signature là, de.
Il y a eu un communiqué là-dessus, oui. Activité forestière en temps de cadre entre les Atikamekw de Wemontachi et le Québec est officiellement signé. C'était un communiqué qui a été diffusé le 30 novembre.
C'est ça. Fait que c'est ça. C'est exactement ça. Puis là, après ça. La personne, l'instigateur du mouvement n'a pas apprécié le processus là, de signature et critique notamment là, toute entente en lien avec le territoire. Mais nous, il faut savoir que nous, le Conseil collabore beaucoup avec les gardiens du territoire tels que j'avais défini auparavant un peu plus tôt. Là. On collabore beaucoup avec ces gens-là, puis c'est les gens qui nous disent, qui nous expriment leur mécontentement, mais aussi qu'est-ce qu'ils veulent comme amélioration. Puis nous, on est les représentants officiels, on est élus. Donc, c'est sûr que pour parler aux tiers partis, peu importe, les deux paliers gouvernementaux, bien, ça doit passer par nous. Donc, nous, on a compétence à agir au nom des Atikamekw de Wemotashi, mais c'est pas nous. Ce n'est pas le conseil en tant que tel qui détient les droits ancestraux. Ceux qui détiennent les droits ancestraux, c'est tous les Atikamekw de Wemotashi, à Wemotashi. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Nous, on est en quelque sorte des porte-parole.
Oui, c'est ça.
En lumière, on met en valeur leur perspective et on défend qu'est-ce qu'ils veulent.
Les revendications que les membres de la communauté vous présentent. Mais moi, j'ai une question dans le fond, parce que au lieu d'aller à mettons, une assemblée de conseil, pourquoi est-ce qu'ils décident de faire un blocus au lieu de juste s'asseoir à une table puis discuter? C'est qu'ils ont l'impression que les dossiers avanceront pas s'ils passent pas par une action concrète comme un blocus?
On l'a souvent invité. On l'a souvent invité à des séances de consultation. Mm. C'est des vraies séances de consultation parce que c'est des gens qui sont venus sur place, qui nous donnaient des orientations. Et nous, par la suite, on prenait le chemin en fonction de l'orientation. Et on a même fait une séance d'assemblée publique là, à la communauté. Et nous, on a déploré qu'il y avait une très, très basse taux de participation. Mm. Mais écoutez, à date de ce que. On a pris la décision d'aller voir les personnes sur le terrain. On habite dans la communauté, on est très proche. C'est quand même une forme de gouvernement de proximité à Wemotashi. Puis je pense à Wemotashi, Manawan, c'est pareil, à Obidjan, c'est pareil. On vit avec les membres. Mm-hmm. On vit avec. C'est nos voisins, etc. Fait au final, on demandait est-ce que vous vouliez. Puis finalement, les sept élus ont fait le tour de leur famille. Et finalement, on a compris qu'il y avait un genre de consensus. Il y avait quelques membres qui n'étaient pas en faveur, mais il y avait des opportunités à venir exprimer leur mécontentement ou qu'est-ce qu'ils voudraient avoir de plus. dans l'entente, puis on les invite, ces gens-là.
C'est pas fini. La porte est toujours ouverte, mais si on revient à l'entente qui a été signée le 30, en terminant cette section-là de l'entrevue, est-ce que tu peux nous dire quelques avancées qui ont été faites qui seraient significatives?
Les avancées qui ont été faites, en fait, c'est on appelle le NAM, une abréviation de Neruzaski Madziwin. Ce sont des zones de protection. Les familles ne voulaient pas. En fait, je pense que même les villégiateurs à l'automne, là, ils veulent pas là, arriver à leur chalet et que tout est coupé aux environs. Fait que c'est ça qu'on est allé chercher comme disposition dans l'entente. C'est des zones de protection, mais aussi l'amélioration du processus de consultation. Il y a un comité mixte qui est créé, qui est maintenant en œuvre. Il faut juste qu'il y ait une personne. Il y a trois personnes de chaque côté, c'est-à-dire trois personnes du côté du Québec, trois personnes du côté de Wamatashi. Et nous, on réitère, en fait, on valorise l'implication communautaire. Donc, on est actuellement à la recherche de personnes pour être du côté de Wamatashi. Et les deux autres dispositions, disons-le comme ça, là, les deux autres dispositions qu'on a convenues, c'est le processus de règlement des mécanismes de règlement des différends. Donc, ça, c'est mis en place. Puis, l'autre aspect, c'est plutôt la sensibilisation aux légiateurs. Donc, il y en a beaucoup qui exprimaient, qui voulaient notamment soulever ou valoriser les droits ancestraux sur Nidaskinam, en fait.
Donc, il n'y a pas une opposition par rapport à l'exploitation forestière du territoire, mais je pense qu'ils expriment un désir qu'il y ait plus de consultations et que les choses soient mieux faites. Comme vous dites, pendant la COVID, le monde était plus à l'écart. Ils ont peut-être moins remarqué les coupes, l'envergure des coupes. Et puis là, maintenant, dans le fond, ils veulent que ce soit mieux fait. C'est ce que je comprends?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand je suis rentré, moi, en tant qu'élu, moi, mon orientation, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais mon orientation à côté de ma maîtrise, je pensais que tous les Autochtones, en fait, la majorité des Autochtones étaient contre l'industrie forestière. Mm. Mais c'est pas ça, c'est plus, sont contre la manière dont c'est coupé. Sont contre, ils veulent évoluer sur la planification. Là, en ce moment, c'est le gouvernement provincial qui planifie ses plans quinquennaux, là.
Okay.
Les patios, pacifiques.
Donc, on peut conclure que le conseil, à tout le moins, est satisfait des avancées qui ont été faites et il y a encore du travail à faire dans la conciliation intracommunautaire.
Ah oui, oui.
Bon, oui, John Evans, on va prendre une petite pause musicale puis je veux que tu nous parles par la suite de ton parcours qui est super intéressant.
C'est bon. Yeah.
Your girl and get your corn, get your cake up. Yeah, just riding with the boy, I'm on my way up. I'm feeling young, feeling free, I'm feeling dangerous. It's for the haters, for all the brave ones. We just doing our thing, can you blame us? We on fire, let's show them what the flame does. It's a fire, yeah, we on a new wave, son. It's a celebration, so can I get a little bit of what you're sipping? I can't a party up and then I'm dipping. Cause tomorrow's another day to get rich and I'm gone, yeah. For that big part, yeah. This is what we do, is for the hip hop. Yeah. Just put it on the gram or the TikTok. Looking tip top, play it like a big boss. For all the queens that's just trying to get their drink on. For all the kings out there just trying to live long. If you got love, you can never think wrong. It's what I wish you. So can I get a little bit of what you're sipping? Trying to be the one that make a difference. Cause tomorrow's another day to get rich and I'm gone. Still I'm going crazy.
cause every day I wake up, the hardest times won't change us. From the bottom, yeah, we came up. Good healing's what the pain does. So sisters, put your prayers up.
Find My Love de Matt Mac et Marianne. Donc, de retour avec John Evans Cocochi, vice-chef des Atikameks de Wemontachi. Donc, on a parlé en première partie un peu de la situation que vous vivez, mais moi, je te connais un peu, puis je sais que tu es un personnage super intéressant. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des études? Le fait que t'es père en même temps que... de jeunes enfants en même temps que tes conseillers. Donc, d'où vient John Evans, comment on pourrait dire?
D'où vient? Wemontachi?
Ouais, ben j'imaginais, mais d'où vient? Pourquoi tu as décidé de faire des études, les études que tu fais, c'est ta maîtrise que tu fais en ce moment?
Ouais, dans le fond, ça part quand même... Ben, je vais déjà expliquer demain. Je grandis à Wemontachi, j'ai vécu à Wemontachi jusqu'à 12 ans.
Ouais.
Et à partir de 12 ans, je voulais explorer plus de mon côté sportif. Là, fait que je jouais à des doublelettes.
Oui, parce que tu étais un sportif, un joueur de hockey, il faut le dire.
C'est ça. Oui, je joue au hockey. Puis là, après ça, en étant en ville, mes collègues, mes amis me voyaient aussi dans le football. Fait qu'ils m'ont initié au football. Puis j'ai grandi de même. Là,
pour te connaître, tu as la carrure d'un joueur de football aussi.
Ouais, c'est ça que mes amis disaient. Fait que entre 12 et 17 ans, là, c'est ça qui est arrivé. J'ai joué au hockey et au football. Puis à partir de 17, quand j'ai fini mon secondaire 5, en fait, ce qui était très surprenant, là, même à mes yeux. Et juste pour te dire, mes parents, eux autres, ils voulaient juste que c'est le minimum de manière dans ce qu'ils me voyaient, c'était de m'encourager parce que mes notes secondaire 1, 2 jusqu'à 3, là, c'est une expression, là, je passais sur la peau des fesses.
Ouais.
J'avais pas des bonnes notes. J'étais découragé de mes notes, mais au final, ce qui m'encourageait à poursuivre, c'était vraiment l'école. Ah, pas l'école, le sport.
Le sport, fait que ça a été un peu qu'est-ce qui t'a gardé sur les bancs d'école, la motivation qu'il te fallait.
C'est exactement ça. Fait que après ça, cégep, moi, je me suis... ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ben je vais suivre mes amis. Je vais y aller, moi aussi, au cégep. Puis là, je me suis inscrit à... Écoute, j'ai fait quatre programmes. J'avais reçu là, une lettre, à un moment donné, à mi-parcours. Là. Ça m'a pris 4 ans et demi, mon cégep. À mi-parcours, moi, à un moment donné, j'avais reçu... un formulaire comme de quoi que j'attestais que j'allais réussir plus de la moitié de mes cours pour la prochaine session. Mmh. Sinon, j'étais expulsé du cégep en tant que tel.
Tu l'avais fait où, ton cégep, par curiosité?
Je l'avais fait dans trois établissements.
Ah oui?
J'ai commencé cégep de Trois-Rivières. Je suis allé au Collège de la Flèche. J'ai joué au cégep de Trois-Rivières pour jouer au football la première année.
Okay.
Après ça, deuxième année, Collège de la Flèche pour jouer au hockey.
Mm-hmm.
Donc, j'étais remplaçant en fait collégial 3. Et après ça, j'ai voulu abandonner. J'ai mis de côté mon sport. En fait, là, c'est là aussi que c'est dans cette période-là où que j'avais connu, en fait, je te dis pas la date exacte, là, mais c'est dans cette phase-là que j'avais connu ma conjointe, puis finalement, on a eu un cadeau de la vie, on a eu un enfant ensemble. Fait qu'après ça, je me suis dit, ben, va falloir que je m'y force, va falloir que je me pousse de derrière pour réussir mon diplôme, réussir mon parcours collégial. Puis c'est comme ça, finalement, que C'est entre-temps aussi que j'avais rempli le formulaire, là, justement, là, qui comme de quoi il fallait que je réussisse. Donc, tout ça est arrivé dans cette période-là, cette phase-là. Puis finalement, je suis rendu à la dernier cours, dernière session, que là, j'avais pris deux cours de sciences politiques.
OK.
Puis c'est là que ça m'a...
c'est qu'est-ce qui t'a comme... T'as eu la piqûre.
Oui, c'est ça. J'ai eu la piqûre. Fait que c'est vraiment là, la philosophie, là, le désir de comprendre comment est-ce que la société fonctionne.
Ouais.
C'est tout ce qui est l'attrait les ordres juridiques, en fait, la manière dont ce que... En tout cas, tout ce qui a trait à la sociologie, la philosophie, le juridique, le domaine juridique, dans le monde social, l'univers social, c'est ça qui m'interpellait le plus.
C'est là que tu as commencé à avoir des bonnes notes?
C'est là, ouais, c'est là que j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Puis c'est là que j'ai commencé à lire aussi, c'est là que j'ai commencé à aimer à lire.
OK.
Donc, c'est à partir du première année à l'université là, que j'ai comme développé là, mon esprit intellectuel, mettons, je sais pas, je peux dire ainsi. Là.
Mm-hmm.
Ouais, fait que après ça, là, c'est parti. Là. La roue était partie, puis j'ai réussi mon bac en 3 ans. Puis après ça, je me suis inscrit à une maîtrise encore à l'Université d'Ottawa en sciences politiques encore. Puis je suis à la fin actuellement. Là, j'attends le résultat de l'évaluation. J'ai déjà déposé mon mémoire.
C'est quoi ton mémoire? Tu nous parlais un peu de ton mémoire? Tu vas-tu faire un livre un jour avec ton mémoire?
Oh, on ne sait pas! dans le fond, je parle des impacts de l'extraction et de la capitalisation des ressources forestières sur le territoire, en fait, des Atikamekw de Omotashi.
OK.
Donc, c'est vraiment... En fait, ça rejoint, en fait, la partie 1 de l'émission là, de
ben
aujourd'hui.
Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ton travail de tous les jours maintenant? Mais faire ton mémoire, attendre, puis être père, tout en étant vice-chef de ta communauté, comment tu réussis à avoir du temps pour tes enfants, dont un autre enfant qui est en route? Ta conjointe, tes amis, c'est quoi les défis relatifs à toute cette ton côté personnel? On a tous une intimité puis une vie personnelle au travers de notre vie comme politicien qui est souvent assez publique. C'est quoi tes trucs?
Ben, mes trucs, c'est vraiment les soirs. Les soirs, j'essaie du moins de me déconnecter puis de juste d'être avec ma famille. Toutes les soirs, on soupe ensemble là, en famille. Là, puis après ça, tu sais, j'essaie là, du moins de m'impliquer dans les routines, le lavage, laver les enfants, etc. Puis après ça, les fins de semaine, on fait toujours du moins un avant-midi par jour. C'est-à-dire c'est un avant-midi samedi, un avant-midi après dimanche.
Mm-hmm.
Des activités en famille.
Okay.
Donc, c'est comme ça finalement que je maintiens mon équilibre avec la famille. Puis côté personnel, moi, j'ai pas... je joue au hockey des fois quelques soirs de la semaine, ici à Ouamotaché.
Ouais.
Puis ça paraît que quand je joue au hockey, je suis plus en santé...
mentale.
Côté psychologique, mental, oui, c'est ça. Fait que ça m'aide à trouver mon équilibre en tant que tel. Oui. Puis là, ce qui était difficile, en fait, c'est dans les phases des travaux intensifs, là, côté universitaire.
Mm-hmm.
Ma conjointe, elle a fini son école, elle aussi, son école du barreau.
Oui, c'est ça. C'est pas comme si ta conjointe faisait avait des petites études. Elle a des grosses études aussi. C'était pas simple d'un et l'autre. Il fallait du support mutuel dans tout ça.
C'est ça. C'est exactement ça. Puis, écoute, je reconnais, en fait, son implication. Elle a beaucoup contribué à la réussite, là. Juste au niveau du support, de comment s'occuper, mettons, des enfants plus intensivement quand je suis en fin de rédaction, par exemple. Et ça a été le même principe de son côté également. Tu sais, quand c'était elle qui s'occupait là, de son école, de son niveau académique, là. Là, c'était moi qui avais mis le plus d'emphase sur au niveau de la surveillance ou de les routines avec les enfants, etc. Fait que, on fait. Je pense qu'on a grandi dans cet environnement-là. Puis, en même temps, on veut inspirer nos enfants. Puis on veut, pour les chemins qu'on a faits, on voudrait, ce qu'on souhaite, en fait, que tous les parents, je pense, souhaitent, c'est que les enfants poursuivent à travers le chemin qu'on a créé. Fait que c'est ça aussi, là, notre volonté de vouloir s'impliquer, c'est pour les générations suivantes et pour nos enfants. En fait.
Oui, parce que souvent, on va penser aux 7 générations futures aussi quand on planifie des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir une volonté quand on parle du territoire, etc. Là, je veux dire, c'est clair que vous devez avoir ça en tête pour les générations à venir. La famille semble avoir une place importante pour vous. Est-ce que vous avez des survivants de pensionnats pour Indiens? Est-ce que vous, votre vie familiale, est-ce que c'est un exemple que vous avez vécu ou c'est quelque chose que vous essayez de créer pour les générations à venir?
Oui, oui. Dans le fond, oui, il y a des survivants des pensionnats dans ma famille, effectivement. Il y a aussi l'école résidentielle. J'oublie le terme exact, là, mais il y avait des écoles résidentielles en milieu urbain.
Oui, les écoles de jour des schools en anglais.
Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait ça également dans notre région. Puis c'est sûr que les impacts intergénérationnels, ça fait ressentir là, dans toutes les familles, ici à Wemotagi. Puis moi, la manière dont je peux vous dire, c'est que j'ai été plus chanceux que certains de mes amis. Puis pourquoi? C'est notamment à cause de toute l'infrastructure, mais aussi les programmes liés au sport quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire. Parce que c'est ça, quand on regarde en milieu communauté autochtone, ici à Wemotagi, là, où je suis en ce moment, là, il y a un programme qui est créé, tu sais, il y a un PDHE, j'ai oublié le terme, mais c'est ça la terminologie. Mais
le sport a été salvateur pour toi. John Evans Kokochi, vice-chef des Atikameks de Wemontachi, Kitimigwetch. Bonne continuation dans ton combat pour les droits, vos droits sur le territoire. Puis félicitations, t'es tout un modèle pour les jeunes de ta nation puis toutes les jeunes autochtones, je pense.
Oui, ça fait une belle différence.
Un grand merci à vous.
Miigwetch.
Miigwetch.
Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
Alors, pour la deuxième partie de notre émission aujourd'hui, on reçoit Moira Wachewskun-Bacon, une femme originaire de Mashtoyats. Elle a étudié en droit et elle travaille maintenant comme animatrice d'ateliers de littérature pour les enfants. Et cet automne, elle a fait paraître, elle a publié son premier roman, Envole-toi, Migoun. Kwe Moira?
Quoi? Ouais.
Le livre raconte l'histoire de Migoun, qui est une femme bispirituelle, queer, qui habite en ville. Donc, c'est assez rare qu'on entend parler des Autochtones jeunes en milieu urbain. Pour moi, je trouvais ça très rafraîchissant. Ça se rapprochait pas mal de mon histoire personnelle. Je trouvais qu'il y avait vraiment des beaux liens. Il y a des choses qui m'ont vraiment touchée là-dedans. Il y a un désir, dans le fond, du personnage principal. En fait, là, quand je regarde, là, il y a un passage du livre. En fait, là, je ne peux pas laisser gagner les choses qui me rendent inou. Je dois devenir une nouvelle personne, davantage comme tout le monde. Je crains de récolter les fragments de mon passé à chaque coin de rue et de les rapporter en ville. Ça m'a vraiment touchée de voir que cette personne-là essayait de cacher son autochtonie, si on peut dire, ses origines. C'était un désir de plaire, un désir de se conformer à la société. Mais par contre, il y a vraiment des caractéristiques de son identité. Puis en plus, en étant queer, c'est un autre défi aussi. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, Moira. Est-ce que c'est inspiré de ton récit à toi, de ta vie à toi, ce récit-là?
Oui, en fait, je réponds souvent à cette question-là, puis la réponse que je donne, c'est en fait, il y a beaucoup de moi dans ce récit-là. Je dirais pas que c'est une autofiction ou autobiographique parce que Migoun est son propre personnage, les sœurs sont leurs propres personnages, la famille. Mais j'ai vraiment écrit ce livre avec mes sentiments, avec l'ado que j'ai été, comme l'ado qui a grandi en communauté puis qui a déménagé en milieu urbain. Donc, les sentiments, les émotions ressenties par Migoun, là, c'est vraiment ce que j'ai puisé dans mon expérience.
Et puis, on le disait plus tôt, c'est ton premier roman et tu as étudié aussi en création littéraire à l'UQAM. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu rêves d'écrire un livre?
Oh mon Dieu, je pense que c'est... Je savais tenir un crayon dans mes mains, puis c'était mon rêve d'écrire un livre, mais j'osais pas y croire parce que j'avais pas confiance en moi, ou bien on me disait que la littérature, c'est pas avec ça que je gagnerais ma vie, je ferais mieux de faire autre chose. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des études en droit, puis finalement, j'ai pas vraiment aimé le droit, donc j'ai tenté ma chance en littérature, puis ça m'a donné la chance de réaliser mon rêve d'écrire.
Parce qu'en droit, il faut écrire souvent. Moi, c'est pas un de mes grands talents, mais par la force des choses, aujourd'hui, je rédige.
Oui.
Moi aussi, il m'a beaucoup parlé. J'ai vécu peut-être une année quand j'étais jeune dans ma communauté, mais sinon, j'ai surtout vécu en milieu urbain. Puis je vais lire un petit passage qui m'a vraiment percuté. Je me sens nul, laide, sale, mais pas de cette souillure immorale que partagent les filles qui ont perdu leur virginité, parce que c'est une quête pour le personnage perdre sa virginité dans ce livre-là. Ces filles, elles, vivent de leur rêve, leur amour, l'émancipation de leur corps. Moi, mon corps n'a pas été encore touché. Personne n'aura envie de toucher ce qui a l'air crasseux, voire dégoûtant. Personne ne voudra de cette peau olivarde devenue plus foncée sous le soleil d'été. Ce n'est pas le bronzage balnéaire des filles de l'école, le summer body, montrant une trace d'un mince bikini. C'est le teint des membres d'un peuple archaïque, tellement perdu dans leur tradition qu'ils se sont fait berner comme des idiots par les colons jusqu'à pourrir dans des coins isolés du reste de la civilisation. Mon corps, ma peau, porte les traces. Je veux tout enlever, mais je ne veux pas retirer ma peau. Je suis coincé à l'intérieur. Tu réhabilites un peu nos ancêtres puis tout ça, mais c'est des pensées qui me sont déjà aussi venues quand je cherchais mon identité plus jeune, puis pourquoi, tu sais.
Oui, en fait, c'est cet extrait-là, c'est un des premiers que j'ai écrit du livre au complet. C'est vraiment venu avec une explosion d'émotions. Je réalisais en écrivant... Je réalisais les passages de journaux que j'avais gardés de l'époque quand j'avais 14-15 ans. Puis j'étais vraiment une jeune ado en détresse qui se sentait pas comme les autres, justement, comme Migoun, qui se sentait moins belle, moins importante à cause du regard des autres. Puis à la place de... c'est sûr qu'à la distance avec la communauté... nous fait un peu oublier ce qui est beau, puis ce qui est beau de nos communautés, comment on est beau, comme...
Oui, parce qu'on a des... je pense que les Autochtones, on est beau et on est belle, mais nos critères de beauté sont pas ceux de la société en général. On n'a pas des standards de beauté caucasiens, disons-le comme ça. On est des belles personnes. Ça me rappelle un article que Maïté Saganache avait écrit, où est-ce qu'elle disait qu'elle parlait de la forme de son corps. Elle dit, j'ai une forme de rectangle, mais je suis un beau rectangle.
Oui, exact.
Donc, je pense qu'on vit tous un peu ça. Surtout en étant en ville, on est moins entouré des nôtres, puis on est vraiment confronté à ces standards de beauté-là qui font partie de notre...
notre quotidien.
Oui, oui, vraiment, là, dans les médias, à l'école aussi, parce qu'il y a une certaine compétitivité là, à l'école aussi. Mm-hmm. Quand on parle, dans le fond, aussi même de l'orientation sexuelle de Migoun dans ce livre-là, Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté dans ta communauté, dans ta famille, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait en frissonner quelques-uns? Parce qu'on sait que dans plusieurs communautés, la religion prend une place importante, puis le queerness n'est pas nécessairement toujours bien accepté. Comment ça s'est passé, toi, par rapport à cet aspect-là?
Oui, en fait, moi, dans ma jeunesse, j'ai vraiment pas été entourée de présence queer. C'est vraiment... Puis quand on en parlait, ben c'était surtout les stéréotypes, les préjugés. J'ose espérer qu'aujourd'hui, il y a eu des progrès. Je dois avouer que j'ai pas vraiment gardé des contacts serrés avec ma communauté depuis que je suis partie. Donc, j'ose espérer qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là. Mais à travers le livre, je vois vraiment qu'il y a une belle réception des membres de ma communauté, puis j'ai pas eu de commentaires homophobes, de retour qui... C'est sûr que du côté de ma famille, j'avais une petite crainte un peu avant de publier un livre qui abordait si ouvertement des thèmes queer, mais ça a été hyper bien reçu, puis je suis vraiment choyée de mon expérience.
T'es une Pikwagwilnu de Mastoyache, mais tu portes le nom Bacon. T'as de la famille aussi à Pessamit, j'imagine?
Oui, exactement. Donc, mon père a grandi à Pessamit avant de s'installer à Mashtewiats, puis ma mère, elle a grandi à Mashtewiats.
C'est pour qui t'écris? Est-ce que c'est pour un public autochtone, un public allochtone, pour des jeunes queer qui pourraient ne pas trouver de représentation? Je me demandais ça en lisant ton livre.
Oui, en fait, principalement, quand j'ai commencé à écrire Migoun, c'était vraiment dans un besoin de apporter à la littérature autochtone québécoise un personnage ado qui me ressemblait un peu plus.
Okay.
Parce que, en fait, je lisais beaucoup, moi, c'est la littérature jeunesse, mon dada, puis je lisais beaucoup de littérature jeunesse autochtone, puis souvent, je lisais des personnages fiers de leur culture, fiers de leur identité autochtone. Puis je trouve vraiment que ça véhicule des beaux messages, ça présente des beaux modèles pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais je reconnaissais pas la jeune Moira qui était pas bien dans sa peau puis qui évoluait dans un milieu allochtone. Fait que je voulais un peu combler ce vide-là qu'il y avait dans la littérature autochtone jeunesse québécoise. Donc c'est vraiment pour les jeunes autochtones, ce livre-là plus particulièrement, c'est vraiment pour les jeunes autochtones et leurs camarades de classe allochtones qui évoluent dans un milieu où est-ce qu'ils sont amenés à cohabiter ensemble et à évoluer.
Oui, parce que c'est très actuel. Tu sais, on voit Mikun qui est sur les applis de rencontre aussi, son
Instagram,
expérience.
Des autres filles de l'école.
Fait que les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça fait partie de notre réalité. Plusieurs sont dépendants à ça. Donc, quand on voit ça, moi, je trouvais que c'était bien imagé. Je verrais même peut-être un film à partir d'un livre comme ça. Est-ce que tu as l'intention d'en écrire plus d'histoires? Tu vises vraiment la clientèle jeunesse, dans le fond.
Oui, en fait, c'est la littérature jeunesse, ça me passionne depuis longtemps. Puis c'est... dans l'immédiat, je me vois pas aller plus loin que ça. Peut-être que ça va venir avec le temps, mais j'écris principalement pour la jeunesse.
Est-ce que Megun va être un personnage récurrent? Est-ce qu'il va avoir une série sur elle?
Dans l'immédiat, je dirais que non. Okay. Megun est pas mal entamé sur son envol, puis je lui laisse explorer son avenir par elle-même. Mais peut-être qu'on va se recroiser sur nos chemins. Puis,
ou un préquel de Megun.
Ouais. Ah oui, peut-être.
Quand les membres de ta communauté, les jeunes, en fait, puis même les plus vieux, quand ils voient que tu écrives un livre comme ça, toi, tu as choisi... Est-ce que c'est toi-même qui as choisi les éditions Anénorak parce que c'est une maison d'édition autochtone? Ou c'est eux qui t'ont approché? Pourquoi c'était important pour toi d'aller avec une maison d'édition autochtone?
En fait, c'est comme plus à donner qu'autre chose parce que le premier jet d'Envole-toi Migoun, j'ai écrit dans le cadre de mon dernier cours au certificat en création littéraire. Puis c'est ma professeure qui avait contacté les éditions Anénorak pour dire « Est-ce que c'est un projet qui vous intéresserait? » Parce qu'elle m'a comme donné la petite tape dans le dos que j'avais besoin pour avoir confiance au projet. Puis, mais je suis vraiment satisfaite de mon expérience, puis je veux vraiment continuer avec Édition Anorak pour des futurs projets avec des thèmes autochtones, parce que je trouve vraiment que l'accompagnement est superbe. Comme j'ai eu accès à une... Moi, je ne parle pas la langue inoue, mais ils m'ont fourni une linguiste inoue pour regarder toutes les phrases en inoue, les mots en inoue, puis mettre du cohérent là-dedans, parce que je demandais l'aide de mon père qui pouvait mélanger le inou de Machiouillage puis le inou de Pessamit. Mm. Donc, ça permettait d'uniformiser le tout. Puis, il y a vraiment un souci de rester fidèle à la voix de l'auteur, au message que veut véhiculer l'auteur. Puis, il y a vraiment, c'est ça, une belle sensibilité puis une belle écoute.
C'est un accompagnement qu'on pourrait qualifier de culturellement approprié, là.
Oui, c'est ça. Puis j'avais pas cette peur-là de pas me sentir écoutée, de ne pas me sentir compris, parce que c'est des personnes qui connaissent mon histoire, qui sont sensibles aux enjeux autochtones. Puis j'avais pas cette peur-là de devoir faire un cours à quelqu'un.
Mm. Puis, dans le fond, au sein de ta communauté, les membres de ta famille semblent avoir bien reçu ton livre. Penses-tu que ça pourrait inciter des jeunes à vouloir, eux autres aussi, se mettre à l'écriture puis vouloir écrire des livres?
Oui, bien, j'espère absolument. En fait, je suis rentrée en contact récemment avec une jeune fille du cégep que j'avais rencontrée dans le cadre du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. Puis, c'était une jeune queer qui a commencé à aborder de plus en plus des thèmes queer dans ses écritures. Puis j'ose espérer que j'ai eu une bonne influence dans son parcours. Puis j'espère vraiment que je vais servir de modèle pour les jeunes.
Toi, est-ce que tu as un modèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré à aller vers l'écriture? C'est quoi tes auteurs, autrices inspirants, inspirantes?
Ah, j'en ai plusieurs, mais c'est sûr que je peux pas ne pas mentionner Joséphine Bacon, ma grande-tante de Pessamit, qui a comme un peu ouvert la voie dans la littérature autochtone.
Pour plusieurs.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Puis sinon, je peux mentionner aussi Edith Kabouya, qui est une autrice de littérature jeunesse québécoise. C'est une autrice noire qui a écrit une série, Victoire divine, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée pour le Envole-toi, Migoune. C'est pas des thèmes similaires, mais c'est vraiment la voix de la narratrice qui m'a beaucoup guidée pour développer la voix de Migoune, pour la rendre plus vivante.
Mm.
Tu travailles day to day comme animatrice d'atelier de littérature dans un organisme à but non lucratif. C'est un peu ça que tu essaies de faire dans ta vie, dans ton travail, d'inspirer les jeunes, à les amener à rédiger quelque chose, à leur apprendre à écrire.
Oui, exactement. En fait, je reçois des jeunes du primaire. On a des locaux sur la rue Alexandre de Sèvres dans le centre-sud de Montréal. Puis, c'est des élèves de différentes classes. Moi, j'ai les 5e, 6e année.
Mm-hmm.
Donc,
primaire ou secondaire?
Oui, primaire.
Primaire, OK.
Oui, c'est ça. Puis, j'essaie de leur transmettre le plaisir d'écrire avec toutes sortes de situations, puis en les stimulant avec différentes sources d'inspiration. Puis, j'adore ce travail parce que ça me permet le contact avec les jeunes, puis le contact avec mon lectorat, puis... Ça me tient à jour sur les trends du moment. Non, mais j'adore vraiment.
Puis, quand tu fais ces ateliers-là de création littéraire, c'est quoi les sujets qui reviennent le plus avec la jeunesse?
C'est une bonne question. Souvent, je les amène un peu ailleurs, comme je sais qu'ils ont une imagination très... très débordante, donc je les initie à des genres littéraires un peu plus explosifs comme fantastique, science-fiction, puis ils aiment bien ça. Ils aiment aussi l'horreur, puis...
les jeunes du primaire aiment l'horreur!
Oui, c'est ça, 5e, 6e année, comme j'ai eu des livres dans ma bibliothèque, là, les livres d'horreur sont le plus de succès.
Hmm.
Donc, vu que je sais qu'ils aiment ça, je les guide un peu vers cette direction-là, genre fait imprimer des personnages de ces gens-là duquel ils peuvent s'inspirer et tout ça. Puis ça donne vraiment des résultats impressionnants. Ils m'impressionnent à chaque fois.
Prochaine étape, on continue le travail d'atelier littéraire. Est-ce qu'on aurait un scoop pour ton prochain livre?
Mon prochain livre, oui, je peux révéler un scoop.
Yes.
En fait, j'ai un projet que j'ai entamé à l'été 2023.
OK.
Donc, j'ai un premier jet de produit que je vais devoir retravailler avant d'envoyer à ma maison d'édition. C'est pour ça que j'en dis pas trop à ce sujet-là, mais on s'en va vers quelque chose de plus sérieux, plus sombre, des thèmes...
Ce sera pas de l'horreur, là, quand on dit
non,
plus sombre.
Non, pas de l'horreur, okay. Non. Mais c'est...
À destination des jeunes encore?
Ben, j'espère que ça va être admissible aux jeunes, parce que je l'ai écrit comme un livre de jeunesse avec okay. une protagoniste de 14 ans et tout. Mais j'espère que les thèmes sont pas trop sérieux pour ce lectorat-là.
Ben, en même temps, c'est des problèmes sérieux. On arrive aussi à ces âges-là.
Oui.
Puis, la littérature jeunesse, moi, peut-être avoir lu, Envole-toi mes gounes quand j'étais plus jeune, j'aurais pu me retrouver à cet âge-là quand j'avais pas de je suis pas queer, là, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments qui me parlent dans ton livre, puis qui me rappelle, il aurait pu me rappeler que j'étais peut-être pas si seul que ça, finalement.
Mm-hmm. Oui, idem pour moi. Vraiment, je me reconnaissais beaucoup dans ce récit-là. Donc, puis je pense aussi que la jeunesse est capable d'en prendre aussi.
Oui, exact. Mm. Comme je le vis avec mes élèves que je reçois dans le cadre de mon emploi, les jeunes sont plus allumés qu'on le pense, sont capables d'en prendre. Je sais qu'ils aimeraient ce que j'écris.
Mm.
Bon, donc on va falloir te réinviter quand le jeu puis le prochain livre va être sorti. Bonne oui. continuation dans ton travail, je pense, important. Ce serait peut-être le fun de voir des ateliers comme ça aussi dans les communautés, éventuellement une tournée.
Oui.
On va envoyer des pensées vers tes patrons, peut-être.
Oui, ben en fait, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir à long terme. Là, comme on essaye de s'étirer de plus en plus comme organisme, l'organisme et ruelle de l'avenir. Donc, peut-être éventuellement dans les communautés.
Ben, Chickens Metton, d'être déplacé avec nous en plus.
Mm-hmm.
Puis, où on peut retrouver ton livre sur le site de Internet des éditions Anénorak?
Aux dernières nouvelles, le site Internet était encore en rénovation,
okay.
Mais sur les libraires, vous pouvez le commander à votre librairie indépendante pas loin de chez vous. Sinon, les grandes succursales aussi, mais évidemment.
Envole-toi Megun avec un K.
Oui.
Pour ceux-là qui voudraient chercher le livre sur Internet. C'est une lecture à lire. Moi, je l'ai apprécié comme adulte et à donner à vos ados aussi.
Oh, oui, c'est d'à propos pour toutes les clientèles.
Ça fait un beau cadeau de Noël.
Ouais. Tout à fait. Tinesh Kumitin, Moira.
Tinesh Kumitin.
I wish I never met you. What would be worse? The sleep I lose without you. Or if we
Donc, on vient d'écouter Nightmare de l'artiste Two Spirit bispirituel CB de la Nation Cree. Là, il y a une grosse nouvelle.
Ben, il y a une grosse nouvelle, oui. Hein? Il paraît que Bryan Adams, la légende elle-même, mm-hmm. viendrait au prochain festival Inunigamon.
Inunigamu qui a lieu
à Maliutenam,
la communauté de Wahatmak Maliutenam aux abords de Sept-Îles.
40e anniversaire de ce festival majeur. Ça se passe en été, on en a parlé un peu à l'émission, mais comme on n'est pas diffusé en été, on a peut-être eu moins la chance de traiter de ce festival-là, mais c'est une grosse affaire.
Moi, j'ai eu la chance d'y aller à quelques reprises.
Moi, j'en ai juste entendu parler, j'ai pas pu y aller.
En tant que public, puis en tant que journaliste, j'ai eu la chance d'aller là. Honnêtement, c'est tellement un événement rassembleur. C'est vraiment, il y a beaucoup de non-autochtones qui, pour eux, c'est la première fois qu'ils visitent la communauté. Mm-hmm. Souvent, c'est une bonne raison. Moi, je me souviens quand il y avait eu Simple Plan, il y a quelques années, c'était gros, puis il y a beaucoup de non-autochtones qui c'était la première fois qu'ils se rendaient là. Puis à chaque année, il se réinvente avec la programmation en invitant des artistes non autochtones d'envergure. Mais là, avec le 40e, il frappe fort. En tout cas, sur les internets, dans les réseaux sociaux, tous les Inuits parlent de Bryan Adams.
Dans le native réseaux sociaux, native Facebook ou... Autre, on parlait rien que de ça.
Oui, que je présume que quand les billets vont se mettre en vente, ça va se vendre assez rapidement. Puis les hôtels aux abords de cette île risquent de se booker assez rapidement. On rappelle qu'on peut camper aussi pour ceux qui les plus braves qui voudraient se rendre. Mais oui, ça donne envie d'aller faire un tour à cette île à Wahatmak Maliutenam pour Inunigamu cet été, certainement. Alexis, à part de ça, dans les actualités, il y a des grandes annonces qui sont passées. Il y a les Inuits d'Essipit qui veulent protéger jusqu'à 30 % de leur territoire ancestral.
Oui, donc 30 % de leur Nitassinan pour pouvoir continuer à pratiquer leur culture. On en a parlé un petit peu plus tôt là, de l'importance du territoire, puis... avec notre premier invité, c'est pas que nécessairement les peuples autochtones sont contre une certaine forme d'exploitation du territoire, mais c'est qu'à tout prendre, il ne restera plus rien pour
les
activités traditionnelles, puis vivre sa culture, vivre son territoire, ce qui est fondamental dans l'identité de à peu près la majorité des Autochtones que je puisse connaître.
Oui.
Moi
qui est une urbaine, à un moment donné, j'ai besoin d'aller dans le bois,
ouais,
d'aller à la pêche, d'aller manger de l'orignal, ça nourrit mon âme. Là.
Donc, c'est ça, les Inuits d'Essipit qui sont à côté des Escoumins veulent protéger 30 % de leur territoire qui est grugé tranquillement par l'industrie forestière. Ce dernier territoire-là s'étend de la rivière Saguenay à l'ouest jusqu'à la rivière Portneuf à l'est. Le Saint-Laurent, c'est leur limite sud, donc on va espérer que ces actions-là, c'est tout aussi dans le cadre de la négociation du traité Petaben. Mm. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup de retard dans ce traité-là, donc...
Parce qu'on s'entend que quand on parle du territoire aussi, ça protège des ressources naturelles, pas juste le bois, mais aussi toute la faune qui vit, dont l'orignal, qui est une importance cruciale. Là, j'en parlais un peu plus tôt, je disais justement, manger de l'orignal, pour moi, ça nourrit mon âme.
Ouais.
Y en a qui mentionnent que l'orignal, il est en voie d'extinction, que
ouais,
si on continue...
Il y a un moratoire dans le parc La Vérendrye, il y a des actions pour le protéger qui sont de plus en plus là. Mm. On a reçu aussi à l'émission Jimmy Papati qui est venu nous en parler. Donc, les ressources s'amenuisent, puis ça fait en sorte qu'on ne peut plus vivre notre culture, on ne peut plus goûter notre culture non plus.
Mm-hmm.
Je voulais parler d'une autre nouvelle que je trouve quand même digne de mention, une triste nouvelle. Plus du quart des victimes d'homicides au Canada étaient des Autochtones en 2022, que ce soit de nos sœurs assassinées disparues, nos frères aussi qui... 225 victimes d'homicides étaient autochtones en 2022, donc c'est 27 % des victimes d'homicides.
C'est énorme.
On a, malgré tout, malgré la dite réconciliation, il y a encore beaucoup de travail à faire, de conscientisation. Et des statistiques comme celle-là nous montrent que la souffrance chez nos frères et nos sœurs, bien qu'on on parle de beaux exemples à l'émission, mais il y a encore la conscientisation à faire. Puis on est de tout cœur avec ces personnes-là pour
leur famille, améliorer, leur entourage, ouais, leur
améliorer les conditions de vie.
Oui.
Donc c'était l'émission 110 avec Sophie-Claude Miller
et Alexis Wawanolat.
En régie, Mathieu Tessé, à la recherche, Claire Guérin et Sylvestre Desterres.